Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour, l'insécurité routière serait-elle une spécificité culturelle française? Voilà la question posée d'emblée et à laquelle veut répondre et surtout apporter, si ce n'est des solutions, au moins des pistes de réflexion, l'Académie des sciences morales et politiques. L'insécurité routière, c'est justement le titre d'un rapport que vient de présenter l'Académie, rapport dirigé par Madame Marianne Bastide-Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et Catherine Deschamps, jeune socio-anthropologue, spécialiste de la prévention des risques. Un rapport qui tombe, je dirais, à point nommé à l'heure du renforcement de l'arsenal existant pour améliorer la sécurité routière, elle-même déclarée priorité nationale par Jacques Chirac, on s'en souvient, lors de son allocution télévisée du 14 juillet 2003. Alors abordons ce sujet, je dirais, de société aujourd'hui avec deux invités, Madame Marianne Bastide-Bruguière, je le disais, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur du rapport. Avec nous également en studio, Madame Geneviève Jürgensen, présidente, fondatrice, porte-parole de la Ligue contre la violence routière. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie. Madame Bastide-Bruguière, je me tournerai tout d'abord vers vous. Pourquoi l'Académie des sciences morales et politiques s'est-elle préoccupée de ce sujet? On pourrait penser que ce sujet est assez éloigné de la préoccupations ou des préoccupations traditionnelles de l'Académie?
Mais pas du tout, parce que la mission fondamentale de l'Académie, depuis sa création par la Convention en 1795, c'est d'examiner les questions qui intéressent la société du moment, de faire des enquêtes sur les problèmes qui s'y posent et de proposer des avis, des voies pour essayer de résoudre les problèmes de la société de notre temps. La question de la sécurité routière est un problème très grave qui affecte la sécurité de toutes les familles et qui peut nous affecter demain en sortant de cette émission. Et donc, c'est un problème sur lequel l'Académie devait se pencher. Elle s'est d'ailleurs intéressée au problème depuis plusieurs années. Elle a récompensé des associations qui militaient pour essayer de réduire le risque routier, pour avertir la population aussi des problèmes de la sécurité routière, et notamment une association que Mme Jürgensen connaît bien, qui est la Route des Jeunes, dont sa fille est responsable, et sa fille a 22 ans seulement, et elle anime cela avec une bande de jeunes à travers toute la France, avec beaucoup d'énergie et de courage.
Madame Jürgensen, justement, vous ne pouvez qu'approuver, je dirais, ce rapport de l'Académie des sciences morales et politiques.
Oui, écoutez, c'est vrai, simplement sur ce souvenir qui doit avoir maintenant 3 ou 4 ans de cette récompense qui a été donnée à la Route des Jeunes. C'est vrai que c'était extrêmement émouvant parce qu'en effet, vous êtes bien renseignée, ma fille a 22 ans aujourd'hui, mais à l'époque, elle était à peine majeure. Et c'était très particulier de voir des gens si jeunes dans un endroit si chargé d'histoire, et ça a été le premier grand encouragement qu'ils ont reçu. Ils s'en sont sentis honorés, et de ce fait, ils ont pu croître et multiplier. Je souligne cela parce que militer pour la sécurité routière est assez ingrat. C'est une cause peu prestigieuse, contrairement à d'autres causes comme qui sont, elles aussi, Dieu sait, ô combien valable, hein, comme lutter contre le racisme, lutter pour le féminisme, lutter contre la mort sur la route, contre la violence banale. Ça a été vraiment pendant extrêmement longtemps quelque chose d'un, on ne peut pas dire solitaire parce que tout le monde en ressentait l'utilité, mais peu lumineux. Voir au fil des ans, à la fois une institution comme l'Académie des sciences morales et politiques s'intéresser à de très jeunes qui se mettent sur ce sujet, et le plus haut magistrat de l'État, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas le président de la République, Jacques Chirac, vous le rappeliez, le 14 juillet 2002, en faire sa priorité personnelle, le premier de ses chantiers personnels, a-t-il dit. Croyez-moi, ça a tout changé dans le statut de cette cause avant même de sauver concrètement des vies par milliers, puisque c'est le résultat qu'on peut aujourd'hui mettre en avant.
En quoi consiste exactement le travail de l'association La Route des Jeunes ?
Alors La Route des Jeunes, ils se sont, d'abord, ils ont des statuts absolument draconiens, parce que moins de 12 ans, plus de 25 ans, vous ne pouvez pas en faire partie. Ce qui fait que c'est entièrement animé par des gosses, je peux le dire, puisqu'ils ont l'âge de mes enfants, qui... qui vont quelquefois danser en boîte ou en discothèque, comme ils disent, mais qui passent à travers la France entière, en effet, beaucoup de leur week-end à aller en discothèque, non pas pour danser avec les gens de leur âge, mais pour les accueillir, accueillir celui qui conduit, lui proposer un contrat qui est, on t'attend à la sortie de la discothèque vers 5h, 6h du matin.
Pour les raccompagner, en fait.
Non. Ils n'ont pas voulu faire. Alors, ces raccompagnements, ils y ont bien réfléchi, ils n'ont pas voulu les faire parce qu'ils ont dit, quand on ne sera pas là, que feront-ils ? Donc, il faut qu'ils prennent l'habitude, eux, de désigner celui qui ne boira pas et qui ramènera tout le monde. Et donc, ils attendent la fermeture de la discothèque pour que tous ceux qui ont passé ce contrat avec eux puissent souffler dans l'éthylomètre. Et une fois qu'il a confirmé qu'il a bien rempli son contrat, il reprend les clés de sa voiture. Et c'est vrai qu'en dehors des plusieurs milliers de jeunes qu'ils ont pu rencontrer comme ça et qu'ils continuent de rencontrer, il y a une telle publicité autour de ces actions qu'il n'est pas impossible que, je le dis avec prudence parce que je suis habituée aux années de déception, mais il n'est pas impossible que cette génération qui émerge soit la première génération en France qui en effet largement prenne l'habitude de ce qu'on appelle le conducteur désigné.
Il y a vraiment une prise de conscience, vous pouvez le constater au quotidien. Prise de conscience.
C'est
de
difficile
par
à chiffrer. Ce qui est sûr, c'est que notre génération continue à dîner et à arroser son dîner. Je ne parle même pas de gens qui boivent trop. Je parle de gens qui boivent couramment autour d'un repas convivial, comme on dit en France. Ma génération continue à le faire sans désigner de conducteur. Et il est possible, c'est en tout cas mon espoir argumenté par ces expériences et par l'écho qu'il aurait donné dans la presse, il est possible que la génération suivante considère comme absolument indigne de ne pas surveiller sa consommation d'alcool très attentivement quand on sait qu'on va conduire après.
Madame Bastide-Bruguière.
L'exemple est contagieux, hein, parce que j'ai une fille qui a l'âge de celle de Madame Jorgensen et qui a fait partie de la Route des Jeunes et qui a participé à beaucoup de ces actions, qui sont, je dois dire, héroïques, parce qu'ils arrivent en boîte à minuit, en province, et c'est des boîtes qui sont en général en pleine campagne, et ils restent là dans le froid pendant toute la nuit, ayant récupéré les clés donc des gens qui veulent bien faire contrat avec eux, jusqu'à 6 heures du matin, à attendre pour faire souffler dans les kilomètres. Mais les jeunes qui ont fait ça, ensuite, quand ils sont en famille ou avec des amis, prennent l'habitude d'avoir un d'entre eux qui ne boit pas pour pouvoir amener tout le monde. Et maintenant, je vois ma fille a transmis la coutume, et comme avec des amis, il y a toujours quelqu'un qui se dévoue et qui ne boit pas. Souvent, c'est elle, parce qu'elle n'aime pas tellement boire, heureusement. Mais je pense que ça a un effet pédagogique, et que, effectivement, comme dit Madame Jorgensen, il y a une génération dans laquelle ça deviendra une habitude que si on sort le soir, il y en a un qui ne doit pas boire.
C'est un sain volontarisme, on peut dire.
Oui, oui.
Dans ce cadre.
Oui.
Alors, Madame Bastide-Bruguière, vous le dites clairement, hein, à travers le rapport, l'Académie souhaite un discours ouvert, mais non moralisateur et responsabilisant. C'est important, ces mots.
Oui. Parce que il ne faut pas prendre les gens pour des enfants. Et de toute façon, certaines mesures qu'on peut prendre peuvent avoir un effet contre-productif. Et un des soucis de Madame Deschamps, qui a beaucoup travaillé sur ce rapport et dont l'expérience de sociologue est extrêmement utile, c'est que certaines mesures qu'on croit très bonnes parce qu'elles sont frappantes, finalement ont un effet pervers parce qu'elles engagent au contraire des jeunes, par exemple, mais aussi bien des adultes, à résister. Donc, il faut mesurer les sanctions en particulier qu'on prévoit, de pas les faire trop fortes parce que ça peut très bien avoir un effet mauvais. Et notre idée aussi, c'est que certaines mesures qui ont un effet heureux à un certain moment peuvent perdre leur efficacité au bout d'un certain temps. Donc, il faut avoir un arsenal de mesures et prendre le problème sous différents angles. D'ailleurs, c'est un la question de la sécurité routière, elle n'est pas univoque. S'il y avait une recette facile, il y a longtemps que tout le monde l'aurait utilisée. Oui. C'est en réalité complexe, parce qu'il y a des responsabilités de toutes parts, aussi bien la responsabilité des constructeurs automobiles qui continuent à augmenter la puissance des moteurs et en faire même souvent un élément de la réclame pour attirer les clients, alors que ça ne sert à rien. C'est même criminel, dans un certain sens.
Vous partagez ce point de vue, Madame Jorgensen ?
Oui, bien sûr. Je voulais juste revenir sur le point précédent, celui des sanctions. Je crois que c'est tout à fait juste qu'il faut insister encore et encore sur le fait que la probabilité de la sanction est beaucoup plus efficace que sa sévérité le jour où elle tombe, alors que ça faisait 10 ans qu'on conduisait de cette façon-là et qu'on avait bien constaté la rareté des contrôles. Donc il est beaucoup plus important que les messages soient fréquents, même s'ils sont modérés, et d'ailleurs s'ils sont fréquents, ils doivent être modérés, plutôt que d'avoir un couperet qui donne l'impression d'avoir au fond été raflé au hasard. C'est toujours cette impression qu'on avait avant la multiplication des contrôles. Encore une multiplication vraiment acceptable, on peut dire. Hein. Mais enfin, disons que avant ce gouvernement, on entendait toujours les automobilistes qui avaient été contrôlés et sanctionnés dire « Mais enfin, on m'a pris à telle vitesse, mais j'ai vu passer 30, 40, 50 voitures plus vite que moi. » Donc ce sentiment d'avoir été piqué au hasard avec des contrôles extrêmement sporadiques est malsain. La loi, dans ces cas-là, est peu respectée dans les faits et dans l'âme, dans l'esprit, tandis que cette façon dissuasive de rappeler à la loi avec des sanctions adaptées est porteuse d'efficacité, oui, il n'y a pas de doute. Alors maintenant, sur l'industrie automobile, bien entendu, chacun, quand on interroge les constructeurs, s'abrite derrière les réglementations. Et donc on peut comprendre d'ailleurs que dans un univers aussi concurrentiel, il ne soit pas question que l'un, à lui seul, se démarque de ce qui semble être une demande, pas personnellement vérifié qu'il y avait une demande, mais enfin en tout cas c'est comme ça. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que on a vu l'industrie automobile évoluer fortement en 20 ans, si vous voulez, il y a 20 ans, entre ce qu'on appelle l'entrée de gamme, c'est-à-dire la petite voiture et la grosse voiture puissante, il y avait une différence de vitesse de pointe, d'accélération absolument énorme, on n'était pas dans les mêmes véhicules. Alors qu'aujourd'hui, une petite voiture comme une Clio, pour ne citer qu'une voiture française, mais c'est vrai de toutes les marques, atteint 180, 190, 200 à l'heure, très vite, en très peu de, enfin, sur une très petite piste de lancement, j'emploie ce vocabulaire à dessein. Dans un environnement, celui de l'Union européenne, qui, d'une façon ou de l'autre, est composé d'États qui tous soit recommandent, soit imposent des vitesses qui ne dépassent jamais 140 à l'heure pour ce qui est de l'Italie, et le plus souvent 120 ou 110 pour les plus rapides des voies de l'autoroute.
Madame Bastide-Bruguière parlait de criminalité. Est-ce que vous reprenez ce terme ? Est-ce qu'il faut littéralement interdire la publicité pour les voitures très puissantes, enfin pour la puissance des voitures en l'occurrence ?
Alors écoutez, la publicité, on a une histoire là-dessus, nous, à notre association, puisque nous avions fait une opération de justice en référé contre Citroën en 1984. Vous voyez que notre combat ne date pas d'hier sur ce plan. Pour une publicité dont les moins jeunes de vos auditeurs se souviendront, qui était en deux temps. Le premier temps, c'était 220 km/h, point d'interrogation. Et la réponse était ces démons, et il s'agissait donc de la première Citroën à atteindre ces vitesses-là. Et nous avions argué du fait que ces vitesses n'étaient autorisées nulle part sur le territoire français et que donc il fallait interdire la publicité. Nous avons perdu sur le plan juridique, mais nous avons véritablement gagné sur le plan pratique parce que à cette époque, les constructeurs ont signé avec le BVP et l'État, le Bureau de vérification de la publicité et l'État, un accord qui n'avait pas force de loi, mais enfin qui était ce qu'on appelle un gentleman agreement, s'engageant à ne plus faire de la vitesse un argument de vente. Ils se sont bien rattrapés depuis, en ne parlant plus que de puissance. Tout le monde a compris que c'était la même chose. Mais enfin, disons que déjà à cette époque-là, l'absurdité de cette, et la dangerosité de ces campagnes avait été mise en évidence. Il faut maintenant ne se détourner de la publicité pour nous, hein, qui avons à concentrer nos forces sur certains points. Et il faut remporter la victoire du changement de l'industrie elle-même. Je vais vous donner un exemple, j'espère ne pas être trop longue, mais honnêtement, il n'y a pas dans l'industrie de masse, c'est-à-dire qui produit des objets de consommation de masse, ce qui est le cas de la voiture, il n'y a pas d'exemple d'absurdité plus grande. Si vous imaginez un lave-linge, par exemple, que vous recommandez de ne pas essorer votre linge à plus de 900 tours minute, parce qu'à 1800 tours minute, il risque de vous exposer à la figure ou à celle de vos enfants ou de vos voisins, vous serez absolument indigné que les vitesses au-delà de 900 tours soient laissées à votre libre appréciation. Or, c'est exactement le cas pour la voiture. C'est-à-dire que tout le monde dit, l'État lui-même qui qualifie les voitures, enfin qui leur donne l'autorisation à travers le service des mines de rouler sur le territoire français, c'est cet État-là qui nous dit qu'au-delà de 130 à l'heure, les dangers seront trop grands. Donc il y a une absurdité, il faut sortir de là, et ça c'est un gros travail de fond auquel nous nous attachons.
Alors c'est un point qui est évidemment soulevé et souligné dans ce rapport, je rappelle, placé sous la direction de Mme Marianne Bastride de Bruguière et Catherine Deschamps, l'insécurité routière, publié aux Presses universitaires de France, les cahiers des sciences morales et politiques. Alors Mme Bastride de Bruguière, justement, votre rapport, revenons-y, comment l'avez-vous conçu? Je crois qu'il y a deux grands axes. Hein. Tout d'abord, vous intéressez aux statistiques pour ensuite la philosophie.
Ce que nous avons essayé de faire d'abord, c'était de dresser l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on sait sur le nombre des accidents, leur fréquence, leurs causes, etc. Et de quels renseignements disposait-on? Et d'après ces renseignements, quels étaient les facteurs essentiels du risque? Et puis ensuite, nous avons essayé d'analyser la manière dont on pourrait présenter ce risque pour éveiller davantage les consciences et puis pour diminuer aussi. Comment peut-on diminuer, agir sur ces facteurs de risque pour les diminuer? Et dans la présentation de l'état des lieux, nous avons mis en lumière un certain nombre de lacunes sur les connaissances que nous possédons sur l'insécurité routière. Par exemple, nos statistiques sur les morts de la route ne concerne que les morts au bout de 7 jours. Mais il peut y avoir des cas, certains accidents, où les personnes blessées décèdent au bout de plus d'une semaine. Et donc ces morts-là ne sont pas comptabilisées. D'autre part, le coût des accidents n'est comptabilisé qu'à partir des sommes que les assurances versent, soit pour les décès, soit pour les dommages. Mais beaucoup des dommages annexes ou des dommages plus étendus, par exemple une famille qui a des handicapés à vie, on ne reçoit qu'une somme très limitée des assurances. Mais pourtant, pendant des années et des années, elle aura supporté des frais considérables, probablement pour l'entretien de ces personnes. Tout cela n'est pas pris en ligne de compte.
Vous avancez le chiffre de 186,6 milliards de francs, donc c'est pour le coût de l'insécurité routière en 2000, qui comprend l'hospitalisation, les soins,
oui, des dommages. Oui, mais ça c'est d'après les assurances. Ça c'est d'après les assurances.
Donc près de 187 milliards de francs en 2000, c'est un chiffre qui est sous-évalué selon vous.
Oui, c'est sous-évalué.
Nettement sous-évalué.
probablement nettement sous-évalué. Et encore, dans toute cette évaluation du dommage, on n'évalue pas le dommage moral qui peut être bien absolument sûr. Considérable, parce qu'il y a certains cas où les familles sont complètement brisées par des événements de ce genre. Donc, et puis, dans les facteurs de risque, par exemple, l'effet de l'alcool est relativement bien connu, parce que bon, c'est ce qui est le plus immédiatement mesurable, grâce à l'éthylomètre, etc. Mais d'autres effets, et notamment le problème des drogues. D'une part, des médicaments, de tous les anxiolytiques dont les Français s'abreuvent, et puis des drogues de toutes espèces que les jeunes en particulier peuvent absorber. Les effets sur la conduite sont mal connus.
Nous allons y revenir, justement, notamment l'importante donc, question du
là,
cannabis.
Il y a vraiment des études plus précises à faire. Et puis, il faut faire des études aussi sur des groupes de gens qui ont été blessés dans les accidents de la route pour voir ce qui arrive au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans. Tout cela, on en a pas, ça n'est pas suivi. Ces cohortes d'accidentés de la route ne sont pas du tout suivies. Donc, il y a tout un environnement de l'insécurité routière qui n'est pas suffisamment connu et dont la connaissance pourrait avoir un effet sur la prise de conscience de la population. Et donc, ça permettrait probablement de diminuer le risque routier aussi.
Geneviève Jorgensen, vous avez vous-même été éprouvée dans ces accidents de la route. Je pense que vous partagez le point de vue de Madame Bastide de Bruguière. Comment expliquer ce manque d'informations, je dirais un problème au niveau des statistiques, tout simplement. C'est quoi? C'est un problème politique?
Oui, c'est
un
assez
problème...
compliqué. C'est vrai que c'est mystérieux. C'est vrai que la recherche ne s'est pas intéressée à ces victimes.
Volontairement ou
non,
par...
Non, je ne crois pas.
Alors oh non, là, pas du tout. La situation est certainement bien meilleure maintenant qu'elle n'était il y a 5 ou 10 ans. On a créé notamment un institut national de recherche sur les transports et la sécurité des transports et qui fait beaucoup de travaux très précis, très utiles sur toutes sortes d'aspects. Mais si vous voulez, il y a encore un certain nombre de points sur lesquels il est nécessaire
D'approfondir.
Oui, ou de faire des recherches spéciales, des enquêtes spéciales,
oui,
de surveiller,
de faire de la veille.
Oui, c'est un état de veille.
Pour appuyer ce que vous disiez, c'est vrai que sur le plan strictement scientifique des causes des accidents, les experts du monde entier sont en gros d'accord. Il y a très peu de débats sur les fondamentaux. Mais ce qui est juste, c'est que vous allez avoir un suivi, par exemple, et moi je m'en réjouis, hein, sur les victimes d'attentats, qui sont heureusement encore peu nombreuses. On va même découvrir certains syndromes dont le nom va devenir célèbre pour ceux qui ont été enlevés, retenus comme otages, etc. Alors que pour ces extraordinaires populations de victimes ou d'entourages de victimes de la route, c'est un fait qu'elles sont quand même largement laissées à elles-mêmes, que du fait que c'est du contentieux de masse, la justice n'a pas vraiment le temps de faire très attention. Il y a très peu d'enquêtes, vraiment extrêmement peu d'enquêtes. Encore aujourd'hui, la majorité des accidents corporels est classée sans suite. Quant à ce qui est de savoir ce que aussi bien l'auteur de l'accident que sa victime éventuelle, ça ne se confond évidemment pas dans la majorité des cas, sont devenus 10 ans ou 15 ans après, ont-ils suivi la trajectoire qui semble être la leur avant l'accident? Est-ce que la grand-mère s'est suicidée 2 ans après? Il y a beaucoup de suicides de grands-parents en particulier. Est-ce que le père a pu reprendre une activité professionnelle quand il a perdu un enfant? Est-ce que la fratrie Est-ce qu'on peut dire que la fratrie a accusé le coup d'une façon ou de l'autre? Rien de tout ça n'est fait pour le moment, et à ma connaissance, nulle part, ni même au Canada, où tout ça est souvent en avance sur nous. On a en effet le sentiment que c'est tout de même un champ qui est vierge. Et alors, vous disiez, madame, que ça allait plutôt mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est tout à fait vrai, et j'aurais même volontiers comparé au début des années 70, où on déplorait pas loin de 3 fois plus de morts qu'en 2003, et où l'opinion publique elle-même était totalement inerte. Si vous voulez, on a cette année, l'année dernière, à partir de l'année dernière, une réponse politique à une véritable demande de la population. Mais 30 ans plus tôt, on a eu une volonté politique dans une catastrophe absolue, puisqu'il y avait près de 17 000 morts en 72, et en l'absence de toute demande du public.
Et même il y avait résistance du public. Le public était même horripilé. Le début de la ceinture de sécurité a été considéré comme une brimade à la liberté individuelle.
Tout à fait.
Un peu comme les radars automatiques.
Ah oui, non, mais on voulait vous forcer, vous sauver la vie de force, c'était scandaleux. Et il y a eu combien de récits pour expliquer que la ceinture de sécurité vous garantissait d'être strangulé dans votre voiture. La résistance psychologique à ce moment-là est quelque chose de fabuleux.
L'idée continue d'ailleurs à circuler, selon laquelle
ceinture... Elle est quand même moins maintenant.
Même les femmes enceintes mettent la ceinture maintenant,
oui,
quand même.
Oui, non, elle est quand même moins. Mais il y a des évolutions psychologiques, et c'est pour ça qu'il faut arriver à sentir où en est la population pour pouvoir agir, si vous voulez. Et de temps en temps, il ne faut pas des sanctions trop fortes parce que elle n'accepte pas.
Ça
faut
décourage,
pas non plus être,
ça décourage,
ne pas être trop tatillon. C'est, quand vous entendez les gendarmes, par exemple, vous dire, souvent, ils sont interrogés à la télévision et ils voient des délits sur la route, enfin des petits mineurs, et disent non, là, je ne veux pas intervenir parce que c'est pas la peine, j'aime mieux me réserver pour les très gros. Et ils laissent passer, ils laissent couler. À Paris, la plupart du temps, les voitures qui débouchent d'une rue et tournent sur la droite ne mettent pas leur clignotant. Et elles continuent sans sourciller. Ça devrait être sanctionné. Mais je pense qu'il faut renforcer les contrôles, les rendre de plus en plus fréquents pour que les gens n'aient plus l'impression de l'injustice quand par hasard ils sont pris. Et aussi que la rigueur dans l'observation des règles devienne plus forte. Il y a d'autres pays d'Europe où il y a beaucoup de choses qu'on fait couramment en France que jamais aucun conducteur n'ose faire parce qu'il est pincé immédiatement.
Mais ça, c'est vrai que le lien entre la crédibilité des contrôles et la conduite automobile, il est direct. Hein. Vous disiez en ouverture de cette émission que ce serait peut-être une sorte d'exception culturelle française, que cette façon de se conduire et de conduire, mais ça n'a rien de culturel. Quand un Français conduit à l'étranger, il s'adapte à la culture locale immédiatement. Je veux dire, il n'a pas ça en lui de conduire vite s'il est contrôlé, s'il a une chance ou un risque, comme on voudra le dire, raisonnable d'être contrôlé. Et à l'inverse, lors des premières semaines qui ont suivi l'installation des radars automatiques, on a constaté que 20% des vitesses excessives étaient le fait de voitures immatriculées à l'étranger. C'est vous dire à quel point les étrangers ont intégré l'idée que notre pays était un sanctuaire de chauffards. Donc, la culture, vous savez, c'est vraiment c'est l'adaptation à l'environnement. Et les Français, en effet, pendant tant de temps et tant d'années, et au prix de drames affreux, vraiment, et pitoyables dans leur... parce qu'ils étaient si faciles à éviter, les Français ont baigné dans
le règne du chacun pour soi.
Non, de l'égoïsme. C'est l'impression
que l'État s'en fichait complètement. Voilà, au fond. Si vous voulez, quand l'État vote des lois, Dieu sait que le code de la route est une loi. Je le rappelle parce que tous les auditeurs sans doute ne le savent pas. à empiler les textes sur ce code de la route, voter les articles les uns après les autres, et pendant des décennies, ne s'est pas donné la peine de faire respecter les lois qu'il votait.
Madame Bastide-Bruguière.
Oui, et pire encore, c'est la variabilité des sanctions. Parce que quand les gens... c'est un des points de notre rapport et qui s'appuie sur les travaux personnels de Madame Deschamps. C'est que les différents tribunaux, pour le même délit, appliquent des peines de sévérité tout à fait variables. Alors que la loi est la même pour tous. Et ça, cette variabilité des sanctions, c'est quelque chose d'extrêmement pernicieux. D'abord parce que ceux qui sont sanctionnés assez durement acceptent mal et que ça a l'air d'être un arbitraire total.
Vous
donc
parliez...
ça vraiment il y a quelque chose à faire là-dessus.
Les autorités politiques avec lesquelles vous discutez, Madame Jorgensen, sont conscientes quand même de ce phénomène, enfin, les autorités publiques en règle générale. Pourquoi ne vont-elles pas plus loin? Bon, il y a eu une prise de conscience effectivement fin de l'année dernière, on ne reviendra pas sur les initiatives de M. Sarkozy, mais il y a une prise de conscience des autorités publiques aujourd'hui, enfin, nécessaire, utile, et il faut aller encore plus loin. Sont-elles prêtes, enfin, dans les discussions que vous avez avec elle?
Alors, il y a eu un discours tout de même très intéressant de Gilles de Robien, ministre des Transports, le 23 octobre dernier, 2003, à Vérone, en Italie, où il rencontrait, pour une réunion informelle, ses homologues de l'Union européenne. Et évidemment, pour des militants comme nous, c'est toujours assez troublant parce qu'on se demande s'ils sont venus espionner chez nous quand ils se mettent, ces gens-là, à faire des discours qu'on aurait pu leur dicter. Et le ministre des Transports a posé plusieurs questions à ses collègues. Sommes-nous prêts à harmoniser les réglementations? La France y est prête. Sommes-nous prêts à homologuer un enregistreur de conduction d'accident, enfin, ce qu'on appelle la boîte noire, je ne sais plus comment il l'a appelé techniquement? La France y est prête. Sommes-nous prêts à attaquer, je vous cite de mémoire, hein, le tabou de la vitesse inutile qu'atteignent la majorité des véhicules qui sortent des usines? La France y est prête. Donc on sent que nous, ça nous donne du moins du grain à moudre, forcément, parce que c'est à partir de ces déclarations on ne peut plus officielles que nous datons le moment où nous pouvons demander des comptes. Vous avez dit ça tel jour, qu'est-ce que c'est devenu? Donc on sent qu'il y a momentanément, mais à nous de rendre cet élan durable, à nous militants, j'entends, il y a momentanément, en effet, une volonté d'aller beaucoup plus loin et de changer structurellement. Parce que vous voyez, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que tout repose sur un nouveau mode de contrôle et une multiplication de ces contrôles que la population semble très bien accepter. Près de 7 sur 10, par exemple, se déclarent favorables au radar qui envoie automatiquement le PV au propriétaire du véhicule. Et 7 sur 10 donc sont pour et pensent que c'est efficace. Mais le jour où ce gouvernement change, ce qui va arriver, rien ne nous garantit qu'on aura derrière un gouvernement de droite ou de gauche qui aura la même détermination sur ce sujet-là. Donc nous sommes...
La continuité n'est pas garantie.
Mais bien sûr que non. Donc nous sommes particulièrement intéressés par les mesures sur lesquelles on ne peut pas revenir. Par exemple, le jour où on ne pourra plus produire des voitures qui vont notablement au-delà de 130 à l'heure, de ce côté-là, on aura la paix. Et bien évidemment, la sécurité routière s'en ressentira dans le bon sens. Le jour où tous les véhicules, y compris les motos, devront être équipés d'enregistreurs d'accidents, c'est ça que je cherchais comme formule, donc de boîte noire, ce jour-là, on ne reviendra pas dessus non plus. Ça ne viendrait à l'idée de personne de retirer les boîtes noires des avions de ligne. Donc nous cherchons ces avancées qui font qu'il n'y a pas de retour en arrière possible.
Madame Bastide-Bruguière, dans ce rapport, je rappelle, l'insécurité routière qui est placée sous votre direction et celle de Catherine Deschamps au cahier des sciences morales et politiques des PUF, presse universitaire de France. Dans ce rapport, vous écrivez « Mettre le bilan à l'épreuve d'une comparaison européenne permet de faire ressortir les les originalités françaises et de tester les premières hypothèses. Donc c'est vrai que l'arsenal juridique français est comparable à celui des pays voisins qui obtiennent pourtant de meilleurs résultats. C'est quand même, il y a un paradoxe là, évident. Oui. Comment expliquer ce paradoxe ?
D'une part, il y a une surveillance dans les autres pays qui est certainement, enfin un contrôle qui est certainement plus constant que chez nous. Et puis, ce qui a apparu dans l'étude que nous avons menée, c'est que il y a une attitude française par rapport au risque qui est différente de celle des autres pays. C'est-à-dire que, mais ça c'est une donnée empirique que nous avons. Hein, simplement, quand on pose la question aux gens, ils considèrent que la mort sur la route est une fatalité et que ce n'est pas de leur responsabilité. Et il y a une proportion beaucoup plus forte de Français qui ont une réponse de ce genre que dans les pays étrangers sur le même sujet.
Donc, c'est la faute aux autres, toujours ?
Oui, c'est la faute aux autres, ou bien c'est une fatalité. Bon, ça arrive, vous devez mourir un jour, ben un jour vous mourrez sur la route, comme vous pouvez mourir dans votre lit, et voilà. Donc il n'y a pas du tout le sentiment, enfin ou du moins pour beaucoup de gens, pas le sentiment qu'ils ajoutent des dangers à quelque chose qui est dangereux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment que prendre une voiture, c'est dangereux. Bon, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de prendre sa voiture parce qu'elle est nécessaire pour beaucoup de choses. Mais qu'il est, il est inutile d'ajouter des dangers à un danger qui existe déjà. Et ça...
On ne veut pas y penser.
On ne veut pas y penser, non.
Par contre, on ne pense pas au fait que on puisse être handicapé après un accident de voiture.
Non. Et je pense que la médiatisation de l'insécurité routière a insisté essentiellement sur les morts et pas suffisamment sur les blessés, et qui, à mon avis, sont presque plus traumatisants, pour des jeunes en tout cas, que la mort. Parce que la mort, ils la voient comme une fatalité. Et bon, bah, c'est fini, tout d'un coup c'est fini, et voilà. Et l'idée de rester pour le reste de son existence dans une petite voiture dépendant des autres, sans pouvoir faire grand-chose, c'est beaucoup plus affreux, ça, comme vision. Et ça, ils ne l'ont pas du tout. Il est très, très rare qu'on parle du nombre de blessés, des gens qui sont blessés à vie, abauchés à vie, etc. Presque pas. Donc là, il y a dans la médiatisation, ce n'est pas une chose très, très drôle, mais... une lacune, il y a un élément psychologique qu'on n'utilise pas.
Geneviève Jorgensen.
Oui, c'est tout à fait juste et ça se comprend d'une part parce que quand on communique, comme on dit, c'est pas une formule bien agréable, mais enfin, sur le nombre de morts, on sait ce qu'on dit. Sur le nombre de blessés, on ne sait pas très bien quels sont les blessés graves et les blessés légers. Après tout, blessés légers, si tout va bien, après, est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie du risque de la vie ? Les blessés graves, c'est un certain nombre de jours d'hôpital. C'est comme ça qu'on les comptabilise. Oui. Mais on peut être resté très longtemps à l'hôpital et aller très bien toute sa vie et y rester très peu et aller mal ensuite. Alors, c'est une raison technique, comme toutes les raisons, elle est discutable, mais enfin, elle existe. Et l'autre raison est beaucoup plus impressionnante, c'est que dans nos rangs de militants de sécurité routière, nous n'avons quasiment aucun blessé et aucune famille de blessés. Pourquoi ? Parce que leur vie est tellement difficile qu'ils ont autre chose à faire que de militer. Ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes d'équilibre, ils ont des problèmes d'équilibre mental, des problèmes d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. Enfin, c'est un cauchemar. Et en plus, dans certains accidents particulièrement fréquents, comme les brûlures à la face ou les cicatrices à la face, ces personnes-là n'ont absolument aucun désir d'aller se montrer à la télévision. Non pas que les parents endeuillés aient le désir d'aller se montrer à la télévision, vous le comprenez bien, mais il y a tout de même une façon, particulièrement chez les parents, de dire, de vouloir que son enfant, au fond, qui est une espèce d'œuvre utile, qui jaillisse de ce terreau effroyable, indéniable. Tandis qu'une jeune fille de 20 ans qui a un œil fermé, qui a des problèmes de dentition parce que tout ça est parti, qui réapprend à écrire, je pense à quelqu'un en particulier, qui est une brillante normalienne, qui est l'année de l'agrégation, et qui a quoi devant elle ? De réapprendre à écrire de la main gauche au niveau du CP, c'est très difficile de médiatiser ça, de mêler ces drames qui sont de purs drames, qui sont sans contrepartie, à la vulgarité des médias, qui est quand même extrêmement envahissante. Laisser le temps de parole, avoir l'écoute, avoir l'image, avoir la délicatesse nécessaire pour donner l'ampleur de ce que c'est que de passer de la préparation de l'agrégation à l'apprentissage du béaba de la main gauche, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'émissions qui soient aujourd'hui capables de faire ça.
Mais même si on ne demande pas aux victimes elles-mêmes de témoigner, et il y a eu des émissions où quelques victimes, et c'était même un auteur d'accident qui s'est trouvé ensuite terriblement handicapé et qui a eu le courage de témoigner. Mais même si ce n'est pas cela, je pense que les journalistes doivent faire état du nombre de blessés. Et les médecins peuvent aussi témoigner, même si ce ne sont pas les victimes elles-mêmes qui parlent. Et je pense qu'il y a une sorte de blackout là-dessus, qui est inadmissible et qui en plus a des effets tout à fait fâcheux.
Donc cet aspect communication est l'une des propositions, enfin, je dirais des solutions évidemment à...
Oui, il faut voir comment on le fait, on ne peut pas le faire n'importe comment, mais il ne faut pas oblitérer les blessés.
Alors, parmi les autres solutions, évidemment, elles sont nombreuses et remontent aux causes des accidents aujourd'hui. Bon, la vitesse, les zones géographiques aussi. On dit qu'il y a généralement plus d'accidents de la route dans le nord que dans le sud, ou inversement d'ailleurs.
C'est non, assez c'est étonnant. Dans le sud,
c'est dans le sud
nord.
Qu'il y a plus d'accidents.
C'est dans le sud.
Alors pourquoi, pourquoi?
Simplement parce que beaucoup des accidents sont liés à notre réseau routier. Il y a beaucoup moins d'accidents sur autoroute que sur les routes nationales. Mmh. Le plus grand nombre, il y a 4 fois plus d'accidents sur le réseau secondaire que sur les autoroutes. Et le réseau routier secondaire est plus dense dans le sud que dans le nord, c'est une raison. Et d'autre part, l'alcoolisme est dans certaines régions du sud plus fort que dans le nord aussi.
Oui.
Et c'est lié à ces régions. Mais c'est lié en partie... Enfin, c'est très difficile parce que chaque accident a sa propre causalité. Mais si on regarde globalement la différence entre le nord et le sud, ces deux facteurs-là sont des facteurs de différence.
Geneviève Jorgensen, la communication, nous en parlions tout à l'heure. Et les infrastructures, alors, est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là ?
Mais ce qui est intéressant, c'est que les plus mauvaises des routes, avec des nids de poules, des choses inattendues...
Ne font pas le pire ?
Mais non, parce qu'évidemment, le pire, c'est... La route qui incite à la vitesse dans des endroits où la vitesse est contre-indiquée. Alors, bien entendu, l'autoroute est le support le plus sûr pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de cyclistes. C'est à sens unique. Je dirais, il ne manquerait plus qu'avec tout ça, on soit encore dans une zone dangereuse. Mais enfin, la plupart des accidents... arrive à proximité de chez soi, dans un rayon de 15 km, donc dans un environnement qu'on connaît extrêmement bien, qui n'est évidemment pas autoroutier. Et ils sont dus en effet à l'alcool. Il faut tout de même rappeler que l'alcool est impliqué, et non pas responsable, hein, mais impliqué dans un accident mortel sur 3, la vitesse excessive, et non pas l'excès de vitesse, impliqué là aussi encore, pas forcément responsable, mais dans un accident mortel sur 2, et que la France a le record d'absorption d'alcool par habitant au monde. Donc on a encore beaucoup de vie à gagner sur tout ça. Mais l'infrastructure, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'en fait, moi je me souviens au début des années 80, que le ministère de la Ville avait mis en place un plan extrêmement intéressant et qui avait donné de très bons résultats, qui s'appelait « Ville plus sûre, quartier sans accident ». Et c'était des aménagements uniquement, c'était pas policier, si vous voulez, c'était uniquement des aménagements d'éclairage, de chaussées surélevées, de pavés, de voies rétrécies. Et on s'apercevait que non seulement dans certains endroits particulièrement accidentogènes, on passait de 7-8 accidents corporels par an à zéro, mais qu'en plus la délinquance courante elle-même diminuait considérablement si elle ne disparaissait pas complètement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'on attend de l'infrastructure, c'est une manière naturelle d'inciter le conducteur à rouler à la vitesse adaptée. Quand on entre dans une agglomération sur une route à quatre voies, qui nulle part n'a le moindre rétrécissement, pas le moindre pot de fleurs, rien qui indique qu'on change d'environnement, il faut reconnaître que c'est assez difficile pour un automobiliste ou pour un motocycliste d'avoir le réflexe de ralentir. Donc tout ce qui peut dans l'infrastructure et dans l'environnement signaler
que, ou contraindre la vitesse même.
Ou la contraindre, comme le font les rétrécissements de chaussée, effectivement, où tout naturellement on est obligé de viser.
Les ralentisseurs.
Les ralentisseurs, oui, c'est une façon d'abîmer la route, c'est-à-dire de créer un nid de poule, il n'y en avait pas. C'est un paradoxe étonnant, mais enfin c'est efficace. Oui.
Le cannabis, vous en parliez, enfin les drogues en règle générale, puisqu'il n'y a pas que les drogues dites douces, entre guillemets, il y a tout ce qui est médicaments, mais le cannabis en tant que tel, bon, le débat a refait surface il y a peu de temps.
La difficulté, c'est que on n'a pas encore, on n'a pas de chiffres précis, et surtout, on n'a pas de détecteur qui permette, quand un accident a eu lieu, de savoir si le responsable a fumé et a fumé combien.
Si vous voulez, a fumé quoi.
Parce qu'on mesure facilement l'alcool, ça c'est facile, c'est dans le... Bon. Mais pour la drogue, non. Et d'autre part, l'absorption de drogue, si elle a été mélangée à de l'alcool, elle n'a pas forcément les mêmes effets que si elle a été prise comme ça à jeun. Donc là-dessus, on n'a pas encore
de chiffres, de données...
On n'a pas d'éléments de données suffisamment sûrs. Bon, on a des... Les jeunes qui se droguent vous disent quand je me suis drogué, j'ai moins de réflexes. Mais ce sont des sentiments subjectifs. Et on n'a pas de preuves absolues que ça a un effet. Donc c'est très difficile de sanctionner les gens là-dessus quand vous n'avez pas de preuves scientifiques que ça n'est fait.
Ce phénomène n'est-il pas...
Et de mesures, surtout d'éléments vous permettant de mesurer la dose qui a été absorbée.
Donc il faudrait créer des dépistages systématiques.
Oui, c'est ça. Oui, mais trouver des systèmes de dépistage. Parce que le problème, c'est ça, c'est d'arriver à trouver un élément qui permet le dépistage...
Si vous voulez,
pourquoi
pour
ce n'est pas si simple, Madame Jorgensen. Je
vais reprendre ce que disait Madame, qui est tout à fait en effet exact. C'est-à-dire que pour l'alcool, vous savez que tel niveau d'absorption correspond à tel sur-risque. Bon. Et ça se mesure très facilement au bord de la route en soufflant dans un instrument. Et il n'y a pas d'erreur. Donc on peut dire, vous n'avez pas le droit de consommer plus de temps, etc. Pour la drogue qu'il faut appeler les drogues, et on ne parle que des substances illicites, d'abord il y a une multiplicité de produits, ils sont difficiles à dépister, c'est-à-dire que c'est quand même pas les gendarmes qui vont faire une prise de sang sur le bord de la route ni vous faire pipi dans un bocal, donc ça demande de nombreuses heures de fonctionnaires.
Oui. L'analyse n'est pas
forcément concluante. Certaines substances peuvent laisser des traces dans votre corps 2 jours après alors qu'elles ont cessé de faire tout effet. Donc, on ne sait pas comment sanctionner, comment mesurer, comment établir un lien entre la substance et la quantité de substance et la date à laquelle elle a été consommée et la dangerosité. On est encore extrêmement loin de pouvoir être efficace pour le dépistage et pour les conclusions du dépistage qu'on l'est pour l'alcool. Donc c'est très facile, je comprends l'indignation d'une population qui en majorité ne se drogue pas, qui se doute bien, et elle a raison, que l'absorption de drogue a un effet négatif sur les accidents. Mais pour calmer l'énervement, il faut sans arrêt expliquer que ça n'est pas simple à dépister, que les substances sont nombreuses, qu'on ne sait pas quel effet elles font, qu'elles produisent des effets assez différents sur les personnes, et que pour le moment, la loi prévoit que les recherches de substances illicites soient faites sur tous les conducteurs décédés dans un accident, afin que, au terme d'une étude menée sur 3 ans, on puisse en savoir vraiment plus et avancer avec des textes qui permettent de sanctionner préventivement.
En dehors de la drogue illicite, il y a simplement les médicaments. Et beaucoup de gens prennent des antidépresseurs qui ont également sur le système nerveux, sur le contrôle des réflexes, sur la rapidité d'adaptation à la route devant les obstacles, des effets. Et qui peuvent être des effets aussi nocifs que l'alcool.
Nous parlions tout à l'heure de la spécificité française dans bien des cas en matière d'insécurité routière. Je me suis laissé dire que certaines études existaient quand même à l'étranger sur la nocivité de certaines drogues, notamment de substances illicites, et que les contrôles étaient beaucoup plus fréquents, les méthodes beaucoup plus sûres à l'étranger, notamment je crois en Allemagne ou en Grande-Bretagne, surtout en Allemagne, et que les chiffres étaient là et prouvés effectivement, mais c'est politiquement sensible. On l'a vu lors des dernières élections et campagnes électorales en France notamment. C'est toujours difficile pour un candidat de dire aux jeunes arrête tes âneries, ne fume pas. Alors qu'ailleurs, on le fait peut-être plus, non, Madame Jorgensen?
Alors, effectivement, j'ai entendu aussi parler de ces contrôles, mais je vous avoue que je ne suis pas très affûtée sur la question. Ce que j'ai pu constater, malgré tout, en France, c'est que ceux qui poussaient le plus aux analyses systématiques, etc., étaient quand même généralement liés à des laboratoires. Et ça, c'est toujours... Excusez-moi, c'est un peu choquant de dire ça, mais c'est vrai qu'il faut toujours essayer de se poser la question de quel est l'intérêt d'un tel ou un tel à pousser telle mesure ou telle autre. Alors, on m'a dit, mais je ne l'ai pas, peut-être le savez-vous après ce rapport, qu'en effet, il y avait des tests relativement simples dans certains pays étrangers, dont l'Allemagne, mais personnellement, je n'en sais pas plus.
Écoutez, nous avions essayé de nous informer, de nous renseigner, et apparemment, bon, peut-être dans les derniers mois, il y a eu le rapport a quand même été bouclé au mois d'avril-mai. Hein.
Donc, 2003.
2003, oui. Ce que nous avions pu avoir comme information montrait que ça n'était pas très sûr.
Ça m'étonne pas.
Et donc... on ne pouvait pas dire on devrait faire tel test et cela améliorerait les choses. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des recherches poussées pour arriver à trouver des tests qui puissent être décisifs pour détecter, et aussi que le rapport entre la consommation de produits illicites ou pas illicites, parce que c'est aussi grave si vous avez pris un antidépresseur et que vous tuez du monde, c'est aussi grave que le produit soit illicite ou illicite, les accidents arrivent.
L'effet est le même.
Oui, les phénomènes, le dommage est aussi grave.
Alors, je renvoie évidemment à la lecture de ce rapport. On ne peut pas être en faire ce soir. Pardon, 3-2-1-0. Nous ne pouvons pas en faire aujourd'hui sur Canal Academy une lecture exhaustive. J'aimerais peut-être en guise de conclusion aborder une question que vous soulevez. Vous affirmez que l'état de la sécurité routière n'est pas entièrement du ressort des politiques nationales. Il faut aussi voir un petit peu à l'international, une politique globale en quelque sorte. Et là, il y a une certaine problématique au niveau du prix des carburants. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu cette problématique, Madame Bastide-Bruguière.
Oui, si le carburant est très bon marché, on n'hésite pas à avoir une grosse voiture qui consomme beaucoup et qui peut aller très vite. Il y a la question du prix du carburant intervient pour la généralisation des voitures de grosse cylindrée qui consomment énormément d'essence.
Alors, est-ce à dire qu'il faudrait augmenter le prix de l'essence comme un peu on augmente le prix du tabac? Est-ce que ça, bon, ça
non,
paraît un peu gros comme mesure?
Non, c'est pas possible parce qu'il faut quand même regarder
le véhicule.
Non, il faut quand même regarder le véhicule automobile. Il faut pas l'ostraciser complètement. c'est quand même un moyen de travail pour beaucoup de gens. Ils sont obligés de se déplacer, ils se déplacent en automobile. Donc, on ne va pas revenir à la voiture à cheval, quand même. Simplement, il faut organiser l'utilisation de ce moyen de façon rationnelle, de manière à ce que les gens ne se tuent pas en utilisant ce moyen.
Geneviève Jorgensen, sur ce point. L'internationalisation.
Simplement rappeler que l'essence est chère en France, hein, en comparaison d'autres pays, particulièrement de l'Amérique, par exemple. Et aussi peut-être compléter, en effet, la voiture est un instrument important pour certains pour travailler, mais aussi c'est un instrument de socialisation absolument essentiel dans une société vieillissante pour les gens du troisième et du quatrième âge. Et nous avons tout intérêt à les maintenir au volant aussi longtemps que possible. Parce que ce ne sont pas eux qui habitent les centres-villes, ils habitent souvent des endroits qui sont dépourvus de moyens de transport en commun commodes. Et que si on ne veut pas avoir des générations entières de grabataires déprimés, et si on ne veut pas développer les services sociaux jusqu'à ce que le pays s'épuise à les rémunérer, eh bien il faut que ces gens-là puissent conduire, aillent au supermarché, aillent à leur club de Scrabble, aillent au cinéma, aillent voir leurs enfants, aillent voir leurs amis, partent en randonnée et pour ça ils ont besoin de la voiture. Ils ont besoin de la voiture très longtemps. Donc il faut en effet considérer la voiture comme un élément de socialisation extrêmement important et différemment selon les âges de la vie et selon qu'on habite un environnement urbain ou non. Et considérer l'essence en effet comme un bien précieux, bien au-delà de la question de la sécurité routière, et en respecter l'usage, et sans doute en effet rouler le moins possible, c'est-à-dire rouler quand c'est important, et faire autrement quand on a le choix. Mais il me semble que les années que nous vivons, c'est peut-être parce que je suis une optimiste épouvantable, confinée à la stupidité, mais enfin, j'ai l'impression que les années que nous vivons vont rejeter les décennies précédentes dans une sorte de préhistoire de l'automobile. C'est-à-dire qu'il y a eu la frontière qu'ont créée les années 73 et 74, avec toutes les grandes réglementations que nous rappelions tout à l'heure, la ceinture, l'établissement d'une vitesse limite, il n'y en avait pas avant, le port du casque, et l'établissement d'un seuil d'alcoolémie positive. Bon, ça a été vraiment un avant et un après. Et il me semble qu'on peut espérer que cette année 2003 va créer aussi un avant et un après. Nous passons dans cette année 2003 en dessous de la barre des 6000 morts. C'est du jamais vu en France depuis que la sécurité routière a été créée et que
vous le disiez encore existe. En 70, 17 000 morts.
17 000 morts en 72, près de 17 000. Et on peut penser que ça fait quand même encore 15 morts par jour, hein, et ça nous situe dans la moyenne des pays européens et pas dans les bons. Mais on peut penser que ce progrès, qui est tout de même exaltant, parce qu'il bénéficie à tout le monde, va créer une exigence plus forte. Qu'au fond, plus le mal est grand, plus il suscite l'indifférence, et plus il se raréfie, plus il inspire d'exigence. C'est en tout cas mon espoir.
Un bel espoir, effectivement, et beaucoup d'optimisme. Ce qui est très, très beau, en fait. Madame Bastet-Bauguer, cet optimisme, vous le partagez ?
Oui, moi, je pense qu'il y a une phase qu'on doit avoir passée. Et on arrive à un moment où les gens domineront leur passion. Mais je pense que c'est un effort collectif, parce qu'il faut aussi leur montrer que, je trouve dès l'école, qu'on n'est pas un héros parce qu'on conduit vite sa voiture, que l'héroïsme passe par d'autres actions, et que la voiture est simplement un élément utilitaire. Et Madame Jorgensen a raison, il faut effectivement que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible au volant, mais il faut en même temps avoir un certain nombre de contrôles pour vérifier que les gens qui prennent le volant sont encore en état physique de le faire. Et là, je pense que, notamment, c'est une des raisons du grand nombre d'accidents sur les routes secondaires, qui sont des routes de province, c'est que souvent les conducteurs ne sont plus en état de conduire. Ils ne s'en rendent pas compte. Et que là, il faut un accompagnement, il faut un suivi, et qu'il y a probablement des mesures à prendre aussi.
Encore énormément de travail. Oui. Merci infiniment pour vos témoignages, très précieux. Je rappelle donc Madame Geneviève Jürgensen, présidente fondatrice porte-parole de la Ligue contre la violence routière, toujours très très active, et puis Madame Marianne Bastide Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a dirigé donc ce rapport des cahiers des sciences morales et politiques publié aux presses universitaires de France, rapport intitulé « L'insécurité routière ». Thank you.